nous avons l'intervention de Sébastien Appiotti et de Bérangère Voisin autour de visualiser et conscientiser son rapport aux œuvres plastiques par l'IA et les données en contexte patrimonial. Étude de cas autour du projet Homo Oculus Spectator.
Merci beaucoup. Merci aux organisateurs et à l'organisatrice donc, pour cette journée d'études. Et merci à vous aussi d'être restés jusqu'à la fin et de mobiliser vos derniers neurones pour donc, la dernière communication de la journée avant la conclusion.
Donc dans cette communication, nous allons rendre compte d'un projet de recherche-création. Donc c'est une méthodologie sur laquelle on reviendra à la fin de cette communication. C'est un projet qui est en cours et qui était intitulé « Homo Oculus Spectator, expérience esthétique, publique et intelligence artificielle ». Donc il faut savoir que ce projet, il a débuté en 2022 par une année exploratoire et qui se déploiera pendant toute l'année 2026. Au sein de trois institutions culturelles de la région Île-de-France, donc à savoir le Cube Garges, le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains et le Musée d'Orsay. Co-construit donc par des professionnels du secteur culturel et muséal, des chercheurs et des artistes, et c'est peut-être ce qui va faire aussi la spécificité de ce sur quoi on reviendra à la fin. Le projet vise à recueillir des informations sur l'expérience esthétique des publics en interagissant avec un dispositif basé sur les technologies dites de l'IA, dont on a parlé beaucoup aujourd'hui. Donc nous nous attacherons, nous, ici, à montrer comment l'expérience proposée aux visiteurs constitue une sensibilisation au traitement des données par l'IA et comment, dans sa phase de conception, elle aura renseigné les communautés scientifiques et professionnelles sur les imaginaires de l'IA et les représentations associées. Donc pour ce faire, nous commencerons par, premièrement, vous présenter l'expérience proposée aux visiteurs. Puis, dans un deuxième temps, nous ethnographierons les phases de co-conception d'Homo Oculus Spectator. Et enfin, nous nous intéresserons à la méthodologie spécifique adoptée dans ce projet, la recherche-création, en indiquant les principaux apports, tant pour les professionnels que pour les chercheurs. Alors, dans chaque l'expérience donc proposée au public, dans chaque institution, les visiteurs seront invités à prendre part à plusieurs situations expérimentales. La première phase leur donnera l'occasion de participer à deux dispositifs de captation. La deuxième phase leur permettra de visualiser les données captées dans la phase précédente. La troisième phase, quant à elle, donnera lieu à des entretiens menés par des chercheurs en sciences sociales auprès des visiteurs enquêtés. Revenons donc sur la première phase, celle de la participation du visiteur. Les visiteurs donc, expérimenteront successivement deux dispositifs placés autour d'une œuvre. Je précise que les œuvres qui vont donc être proposées à ces expériences seront différentes selon les institutions, puisqu'il n'est pas question de transporter des toiles du musée d'Orsay au Cube Garges, les Gonesse et réciproquement. Les visiteurs donc expérimenteront successivement deux dispositifs placés autour d'une œuvre, d'une part le tapis d'œuf et la vitre magique. Ces deux dispositifs, appelés également œuvres compagnons, ont été imaginés par un collectif d'artistes qui s'appelle Data Dada, à la suite de séances d'observation menées au musée d'Orsay et pendant lesquelles le collectif avait constaté, d'une part, le rythme soutenu avec lequel les visiteurs passent d'une œuvre à l'autre et, d'autre part, le déficit attentionnel récurrent à l'égard des œuvres. Donc, composé d'artistes, d'ingénieurs informatiques et de designers, le collectif Data Dada conçoit des expériences à travers différents formats, ça peut être des performances, des ateliers, des expositions, afin de sensibiliser et de former le grand public aux enjeux sociétaux, éthiques et scientifiques des données numériques et de l'IA. Donc, leur démarche artistique s'appuie sur une pédagogie participative et une approche décalée, poétique et fantaisiste de la technologie. Donc, c'est par ce biais que les artistes souhaitent faire vivre des expériences insolites au public, de manière à ancrer durablement, en tout cas c'est ce qu'ils espèrent et ce qu'on espère aussi, certaines notions dans les esprits. Donc le premier dispositif est appelé le tapis d'œuf. Alors en quoi ça consiste ? Eh bien, le visiteur est invité à regarder seul une œuvre. Pour ce faire, il doit s'engager dans un chemin étroit, contraint, chaque visiteur pourra accéder seulement un par un à la zone leur permettant de regarder l'œuvre en question. La fonction de ce tapis est donc de réguler le flux des visiteurs, de les inviter à ralentir et à être attentifs. Ce tapis d'œuf mesure environ 4 mètres sur 4. Je précise qu'il est constitué de coquilles d'œufs réelles. Une caméra est positionnée, parce qu'on a eu beaucoup de discussions, notamment au musée d'Orsay, sur la nature des œufs. Bon, voilà, on pourra y revenir plus tard si vous le souhaitez. Une caméra est positionnée donc, du côté de l'œuvre, en regard du visiteur, de façon à ce qu'elle puisse enregistrer les mouvements. Le temps d'observation est illimité pour chaque visiteur. Et il est possible de détecter des gestes tels que le fait de brandir son téléphone, se pencher sur un cartel, etc. Le deuxième dispositif que donc, le collectif d'artistes Dada Dada a imaginé est la vitre magique. Donc, cette vitre elle est placée entre l'œuvre et le visiteur. On a le même principe, c'est-à-dire une caméra qui détecte le temps d'immobilité des visiteurs. Et si ce temps d'immobilité est supérieur à un temps que pour l'instant il est défini à 15 secondes, mais bon, là, le dispositif est encore en cours d'élaboration, la vitre devient translucide et révèle l'œuvre progressivement. Donc, si dans la phase 1, celle que je viens de décrire, c'est-à-dire les deux expériences proposées aux visiteurs du type participative, l'expérience et qui consiste à capter leur posture, elle est complétée donc, dans une phase 2 par une autre expérience pendant laquelle les visiteurs peuvent découvrir une sorte d'abstraction du comportement des autres visiteurs, telle que l'IA analytique peut la donner à voir sous la forme d'un nuage de points en mouvement. Cette représentation sur écran est visible dans une salle adjacente et non pas dans la salle où est proposée les deux premières expériences, de manière à ne pas perturber ou influencer la phase 1. Les visiteurs auront donc également accès dans cette salle à des figurines en trois dimensions nommées homoculus spectator. Donc, je vais revenir sur ce terme, c'est un syntagme néologique proposé là encore par le collectif d'artistes qui est inspiré de l'homoculus de Penfield, ce neurochirurgien canadien des années 30, qui avait effectué un certain nombre d'expériences, notamment sur des patients épileptiques, et qui avait établi une carte de correspondance entre les parties du corps et les régions du cortex, dont l'activité est responsable de leur motricité ou de leur sensation. Donc, suivant ce principe, les figurines 3D nommées homunculus spectator suivront une logique de représentation en cours de définition, mais qui pourrait être, par exemple, plus le visiteur passe de temps devant l'œuvre, plus la taille de la figurine 3D est importante. Ces figurines rendront compte dans une forme matérialisée du travail effectué par l'IA générative, telle qu'elle aura été programmée par les artistes à des fins de clusterisation et de labellisation. En d'autres termes, les visiteurs verront des archétypes matérialisés qui incarnent les catégories de spectateurs témoins du fonctionnement de l'IA. Et enfin, dans sa phase 3, des chercheurs de sciences sociales recueille les paroles des visiteurs confrontés aux homunculus pour les analyser, phase que nous ne développerons pas ici faute de temps, mais qui fera l'objet d'un temps de restitution en 2028 lorsque la première phase d'expérimentation aura lieu. Ce qu'on peut toujours actuellement vous dire, c'est que pendant les temps de débat et de travail collectif qui ont permis de stabiliser le fait que plusieurs types d'IA seront convoqués. On peut en dire un mot ici. Donc, une IA analytique qui servira à reconnaître les postures de visiteurs devant le dispositif œuvre à partir d'une sélection de 3 ou 4 œuvres par lieu. Ce sera peut-être moins, c'est encore en cours de définition. Un algorithme sera codé par Dada Dada, donc le collectif d'artistes dont on a décrit la spécificité puisqu'ils ont une double compétence et artistique et scientifique. À partir de TensorFlow et une plateforme d'outils open source d'apprentissage automatique adaptée pour les besoins du dispositif. À partir des schémas corporels recueillis, des algorithmes de clustering permettront aux artistes de faire émerger une typologie posturale de visiteurs à labelliser dans un deuxième temps. Et enfin, une IA générative 3D sera mobilisée pour permettre la fabrication des homoculus spectator. Donc on est parti sur des impressions 3D, par des imprimantes 3D, représentation anthropomorphique des schémas posturaux des visiteurs.
Donc, deuxième partie, afin de co-construire le dispositif et l'expérience dont on vous a présenté, le projet a fait l'objet d'une année exploratoire qui a été ponctuée par à la fois des réunions plénières et des ateliers. Donc, ce que l'on entend par co-conception, c'est un processus qui a permis aux différentes parties prenantes, donc partenaires institutionnels, mais aussi artistes et chercheurs, nous compris, d'exprimer leurs pratiques et imaginaires socio-techniques de l'IA. Par imaginaire socio-technique, nous entendons avec Sheila Jasanoff, je cite, des visions de futur désirables, tenues collectivement, stabilisées, institutionnellement et exécutées publiquement, animées par une compréhension partagée des formes de vie sociale et d'ordre social atteignables grâce aux avancées de la science et de la technologie. Alors, en français, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'au cœur de cette définition, il y a l'explicitation, en tout cas le fait qu'on souhaite expliciter avec les parties prenantes, leur rapport au temps et à la technologie que l'on triangule avec l'IA, que nous avons donc choisi d'interroger par une enquête ethnographique des phases de co-conception, donc du dispositif en train d'advenir. En cela, notre approche peut par exemple être mise en relation avec d'autres recherches, notamment en sciences de l'information et de la communication, comme celle d'Eva Sandry sur l'étude ethnographique de la rénovation du Muséum Art Latène, musée de société à Arles. Prétexte, donc la rénovation, qui lui a en réalité servi à sonder les imaginaires du numérique des professionnels de ce musée. C'est ce qu'on cherche à faire. Vous nous voyez avec nos gros sabots. Et en réalité, il est apparu assez rapidement qu'il fallait clarifier nos acceptions et savoir situer de l'IA afin de choisir parmi ces possibilités celle qui serait la plus à même de renseigner la relation potentiellement du public à l'œuvre. Et concrètement, c'est ce que les parties prenantes ont fait lors d'ateliers en définissant à la fois leurs usages et leurs imaginaires socio-techniques de l'IA, et notamment les modalités d'interaction entre IA et public telles qu'elles sont pratiquées et envisagées dans les institutions partenaires. Slide suivante. Ce dispositif donc a été co-conçu lors de journées qui sont inspirées de groupes de la méthodologie des groupes de co-interprétation sémiotique sociale. Je n'ai pas le temps de développer. Et ces ateliers ont pour objectif, on va dire simplement, de recueillir des hypothèses interprétatives sur ce que devrait être ou pas le dispositif, l'œuvre, l'IA, et de la confronter aux autres et de mettre, ce faisant, au jour nos impensées et nos visions situées sur l'IA et le rôle, par exemple, de la technologie numérique ou de technologie numérique au musée. Alors, si on se concentre sur une des questions qu'on a posées donc à nos partenaires et à nous-mêmes, comment est-ce que je définis l'IA ? Question simple, mais qui nous a occupés pendant plusieurs semaines. 5 approches définitionnelles ont émergé d'ateliers. Je ne vais pas forcément les développer plus. Hein, vous en avez, elles sont indiquées derrière moi. Hein, une étant la plurivalence, hein, donc l'IA comme une notion parapluie ou ombrelle, hein, regroupant de multiples techniques. La seconde, puisant plutôt dans des registres énonciatifs de l'anthropomorphisme. La troisième, générative, hein, l'IA comme capacité à créer du contenu à partir de stimuli. La quatrième, plutôt fonctionnelle, pardon. Et enfin, la cinquième, plutôt axée sur la dimension éducationnelle ou liée à l'apprentissage de l'IA. Et dans cette recherche de prise en compte de la diversité des imaginaires socio-techniques de l'IA, nos tâtonnements définitionnels ont en réalité mis à jour l'intérêt de questionner le processus de fonctionnement de toute IA, mais aussi les discours d'escorte, hein, c'est-à-dire les discours qui vont littéralement accompagner l'IA et sa circulation dans différentes sphères politiques, médiatiques, institutionnelles, mais aussi scientifiques, comme la journée aujourd'hui s'y prête. Nous aimerions également insister sur 2 enjeux que nous avons identifiés à propos de cette démarche dite de co-conception. La première, c'est la chaîne de coopération selon Howard Baker des acteurs. Par ce concept, Baker décrit dans les mondes de l'art le processus créatif de l'artiste qui n'est pas une activité isolée, merci Howard Baker, mais la résultante d'un processus de coopération entre des acteurs assurant, je cite, des faisceaux de tâches. Avec, ce qui est là qu'il y a un intérêt, des normes et des règles implicites qui assurent la coordination entre les acteurs. Et c'est précisément ce qu'on a souhaité ethnographier dans ce projet pour comprendre les tensions et les ajustements, donc, et la place attribuée ou que s'attribuent les acteurs au sein de ce projet. La deuxième nous a confronté, en tout cas deuxième enjeu, au fait que la convergence interprétative de 3 institutions, d'un collectif d'artistes et de chercheurs de 2 universités différentes ne va pas de soi. Que ces cultures professionnelles, artistiques et scientifiques et donc ont nécessité d'être investiguées, d'être comprises, d'être pensées afin d'ajuster notre protocole de recherche-création. Voilà, je vais m'arrêter là et je te passe la parole pour la dernière partie.
Donc dans cette troisième partie, nous aimerions explorer la méthodologie employée, celle de la recherche-création. Donc elle vise à mener en parallèle, mais de manière intriquée, d'une part l'acquisition de connaissances scientifiques et la pratique artistique. Le Conseil de recherche en sciences sociales et humaines du Canada définit la recherche-création comme une approche de recherche combinant des pratiques de création et de recherche universitaire en favorisant la production de connaissances et l'innovation grâce à l'expression artistique, à l'analyse scientifique et à l'expérimentation. La recherche-création suppose de mener une recherche par l'art, quel que soit le terrain élu, et sans préjugé d'une méthode a priori. Comme le souligne la philosophe théoricienne et praticienne de l'art Erwin Manning, la recherche-création est un mode d'activité qui est d'autant plus intéressant quand il est constitutif de nouveaux processus. Cela peut se produire uniquement si son potentiel est détourné à l'avance de ses alignements avec les méthodes disciplinaires existantes. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est vrai que pendant toute l'année exploratoire, donc ponctuée de séances de travail et au gré des échanges avec les différentes parties prenantes, plusieurs déplacements successifs de ce que nous appellerons ici des zones d'intérêt sont advenus. Nous étions partis avec l'idée d'expérimenter les potentialités de l'IA pour rendre compte de l'expérience esthétique dans sa multidimensionnalité. Cet objectif initial induisait la co-conception d'un dispositif devant être installé successivement pendant une période définie dans les trois institutions partenaires et qui permettrait de récolter des données. Très vite, plusieurs points clés ont émergé et ont façonné progressivement la nature de l'expérience à proposer aux visiteurs. C'est en échangeant sur les modalités du dispositif concrètement pendant la phase de co-création que les acteurs du projet ont été réciproquement informés sur le fonctionnement de l'IA et de ses usages. Récolter les données sur l'expérience esthétique des publics en situation de visite dans des institutions culturelles ne va pas de soi. La première alerte renvoyée par les institutions et les chercheurs membres du projet concernait la nature des données collectées et la nécessaire obtention du consentement des visiteurs. Ainsi, les parties prenantes du projet ont été invitées à participer à un atelier au cours duquel il leur était demandé de lister le type de données auxquelles ils pensaient spontanément. Ces séances furent également l'occasion de mettre en lumière la manière dont se déclinent concrètement dans les institutions culturelles aussi différentes que sont le Cube Garges, le Centre des Arts d'Anguin et le Musée d'Orsay, les lois qui régissent la protection des données personnelles et le recueil des consentements. La question juridique a permis de mettre en lumière le fait qu'informer les visiteurs aurait des implications sur la nature même de l'expérience esthétique telle qu'ils allaient la vivre. En d'autres termes, le comportement dit naturel du visiteur capté par une IA serait nécessairement impacté par la prise de conscience qu'il allait être observé, ses données enregistrées, puis traitées par une IA générative.
Et en conclusion, enquêter avec l'IA et à propos de l'IA sur la relation des publics au patrimoine culturel et dans trois terrains distincts contribue selon nous à désinvisibiliser, je suis arrivé, le fonctionnement des IA enquêtées. Notre projet constitue un point d'entrée, parmi d'autres, par lequel les publics peuvent mieux comprendre, en y participant, aux différentes phases nécessaires à l'élaboration d'un objet généré par plusieurs IA. Les publics, par ce biais, c'est l'hypothèse en tout cas qu'on fait, conscientiseraient davantage le processus selon lequel les données collectées, malgré un consentement préalablement accordé, peuvent générer un profil d'eux-mêmes, ici, et incarné et matérialisé par un homonculus spectator, sensiblement différent de la manière dont ils se représentent leurs pratiques en contexte culturel et ou patrimonial. En cela, notre projet permet aux institutions culturelles d'être des acteurs engagés dans le but de rapprocher et de sensibiliser les publics des grands enjeux et questionnements contemporains autour des technologies, du numérique et de l'IA. Et enfin, le projet a fait émerger l'utilité d'une plateforme co-conçue par les acteurs du projet pour documenter le processus de recherche-création et offrir aux professionnels des secteurs culturels et patrimoniaux un lieu de ressources et d'auto-formation autour de l'IA et du patrimoine culturel. Ceci est rendu possible par le financement du PEPR ICAR. Donc, merci le PEPR.
Est-ce qu'il y a des questions ? Alors moi, j'en ai évidemment une. On attend donc peut-être la... Hop, je me perds dans mes notes. Elle est derrière. Hop. Oui, si. Justement, dans cette phase de co-création, collaboration, enfin, vous revenez vraiment sur très intéressant la façon dont chaque IA, enfin, est investi en termes d'imaginaire et de représentation, enfin, de ce qu'il peut y avoir derrière. Est-ce qu'il y a eu un travail linguistique, c'est-à-dire est-ce que vous êtes mis d'accord sur les termes employés ou pas ? Enfin, est-ce que vous ressentez le besoin de clarifier la façon dont vous désignez, par exemple, l'œuvre, le compagnon, enfin, est-ce qu'il y a eu un travail en fait sur la terminologie pour vous mettre d'accord en fait ?
Alors, on n'a pas procédé comme ça. C'est-à-dire, comme nous, on cherchait à ethnographier, on a plutôt laissé les paroles discourir dans des ateliers libres et nous, on a documenté toutes ces périodes-là. En revanche, quand il a fallu vraiment être dans la phase de concrétisation du dispositif. Là, chaque terme que tu as épinglé, c'est exactement ce sur quoi on a beaucoup travaillé en termes de définition. Et il y avait des décalages importants, que ce soit sur la question des connaissances juridiques, que ce soit sur les potentialités de l'IA, ce qu'on pouvait en faire au musée, ce que ça pouvait dire, ce qu'on pouvait dire du comportement des visiteurs. Et donc, il y a eu des séances très, très longues de mise en discours commun et qui n'a pas toujours été... c'est toujours été des négociations. C'est-à-dire que la négociation ne s'est pas toujours faite d'une culture disciplinaire vers une autre, mais souvent dans des sens différents. Et c'est ce qui a fait la recherche de ce projet au point où on en est, puisque le premier déploiement, il va avoir lieu dans un mois. Fin décembre, au Cube Garge. Ouais.
Et du coup, je regarde s'il y a d'autres questions, mais est-ce que, en termes de recrutement de visiteurs, si je peux parler de recrutement de visiteurs-testeurs, comment vous envisagez les choses au sein du groupe ? Est-ce que c'est le dispositif est installé finalement pour éviter... ou est-ce que vous pré-recrutez vos visiteurs ? Comment vous... Est-ce que ça a été défini avec les institutions
oui.
ou pas ?
Oui, là, très rapidement, en fait, ça dépend vraiment des institutions qui ont des... J'enfonce une porte. Des publics très différents, d'Orsay au Centre des Arts d'Anguien, notamment. Donc là, ça dépend. Par exemple, pour le Cube, ça va être à la fois des publics, j'aime pas le terme, mais naturels ou organiques, c'est-à-dire qui seraient volontaires pour tester le dispositif, et des lycéens, donc il y aurait des publics également recrutés. Pour le Centre d'Anguien-les-Bains, des Arts d'Anguien-les-Bains, il y a très peu de publics, assez peu de publics organiques, justement. C'est une institution à la fréquentation plus modeste, donc là, on va beaucoup fonctionner avec des publics scolaires. Et pour le musée d'Orsay, la contrainte inverse va être de limiter le flux, avec notamment un système scénographique dédié, des agents, là aussi, de médiation, agents de médiation dédiés, pour filtrer. Avec un espace du musée qui va être dédié. Et donc, en fait, à la fois les œuvres qui ont été choisies sont différentes, mais aussi les espaces et les modalités de recrutement des publics. En fait, on ne cherche pas, si ça répond à ta question, on ne cherche pas vraiment un protocole, une base de comparaison, puisque de toute manière, les situations qu'on a montrées sont déjà de base des situations artificielles, qui créent un rapport à l'œuvre qui n'est pas organique. Parce que le temps d'attention est plus long, parce que a priori on ne fait pas attention quand on visite une œuvre à ce qu'on va écraser des coquilles d'œufs ou pas. Ça a été éliminé, mais ça a fait partie des discussions justement, savoir si on reproduisait une situation de visite organique ou idéale, ou en fait, et là il y a une dimension quand même artistique qui est importante et qu'on assume.
Oui, l'idée étant que, en fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est de mesurer l'écart et de rendre la parole au public dans la phase enquête sur l'écart produit entre une génération d'un profil de visiteur par l'IA, mais en ayant bien décrit, notamment par les discours d'escorte qui vont être mis en place, la scénographie, le visiteur doit être complètement informé de la manière dont ces données vont être captées. Clusterisées, labellisées, et ensuite elles vont rendre une matérialisation. Et nous, nos enquêtes vont se baser sur le discours du visiteur et sur la capacité à décrire l'écart entre cette génération par l'IA et ce qu'il a l'impression de ressentir lui de lui-même. C'est un peu la phase de correction de l'image générée par l'IA, mais sauf que là, on redonne la parole au public par des enquêtes menées par des chercheurs en sciences sociales.
Vous avez indiqué que certains scolaires, donc a priori mineurs, vont participer à votre dispositif. Nous, il se trouve qu'on s'est posé la question. Comment vous avez pu adapter en fait les régulations européennes, l'IAC, etc., à des publics mineurs ?
Alors là, on s'en remet aux institutions, puisque c'est surtout le Centre des Arts d'Enghien. Qui a des partenariats au long cours en fait, avec certaines classes dédiées. Donc là, il y a un travail qui est fait en interne et ça fait partie des discussions qui ne sont pas du tout les mêmes selon les publics recrutés. A priori, on est quand même parti plutôt pour des scolaires. Mais ça, il va falloir qu'on l'affine avec eux. C'est quelque chose qu'ils ont déjà... mentionné.
Et pour la question des données récoltées, ce qu'on a peut-être oublié de préciser, mais parce que le temps était contraint, c'est qu'il n'y a pas d'images de visiteurs qui sont captées, ce sont uniquement les schémas posturaux, donc c'est-à-dire les nuages de points. Voilà, donc c'est totalement anonymisé, on ne peut pas reconnaître en fait, et c'est pas le but du projet, puisqu'en fait le but du projet, enfin, comment vous dire, le schéma postural et la génération ensuite en 3D, ce n'est pas la finalité du projet. La finalité du projet, c'est vraiment la confrontation de le regard machinique sur la posture du visiteur versus la manière dont le visiteur se représente lui-même en train de faire l'expérience. C'est ça qui nous intéresse. Donc partant de là, on a pu passer sur un mode entre guillemets dégradé que nous ont proposé les artistes, c'est-à-dire on ne capte pas l'image, mais juste un nuage de points. Parce qu'au départ, on était parti sur des choses vraiment... beaucoup plus élaboré. Alors, on n'était pas sur du motion tracking comme ça a été présenté tout à l'heure, mais on était, oui, sur la captation aussi de données physiologiques, les battements du cœur, etc. Et on leur a dit, on n'est pas, nous, en neurosciences, enfin, on n'a pas besoin de light tracking ou autre, on n'a pas besoin de tout ça, en fait. Parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette confrontation, voilà. D'où le fait, j'espère que ça répond à votre question.
Je ne vois plus de main se lever. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vais...